Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Si vous avez raté les deux premières heures, n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast sur l'application RMC, toutes les différentes applications de téléchargement. Toujours avec Simon Dutin ce matin, Stephen Brun, David Douillet, Marion Bartoli. Et pour cette dernière heure, nous accueillons un autre double champion olympique. C'est Alain Bernard, un ami d'RMC. Salut Alain.
Salut à tous.
Salut Alain.
Très heureux de te retrouver. Alors Alain Bernard, je situe pour les moins de 15 ans, ça peut arriver hein, qui nous écoute. Alain Bernard, c'est ça, c'était le 14 août 2008.
Ils sont beaucoup d'écoute, attention à la bandeur, Alain Bernard. Alain Bernard, champion olympique!
Ah, ça, c'est le RMC qu'on aime. On ne comprend rien. Julien Richard, François Pesanti, on les embrasse très fort. Alain Bernard, qui est devenu ce jour-là premier champion olympique français du 100 mètres nage libre. Bravo. Ça fait du bien de réécouter ça, Alain?
Ouais, ça fait du bien. Ça fait un peu mal aux oreilles, désolé, mais non, mais c'est ça qui est fort, c'est la puissance du sport, c'est ce qu'on se rend compte qu'encore quelques années après, on en garde des super souvenirs. Et donc, merci de remettre ça à l'antenne.
Et justement, quel est votre plus grand souvenir des Jeux Olympiques? Je vous ai posé la question, on a déjà découvert celui de Stephen Brun, c'était la finale de basket en 2008 entre les États-Unis et l'Espagne. On a découvert dans cette émission celui de David Douillet, c'était le concours du saut en longueur avec Carl Lewis en 1996. On va découvrir celui d'Alain Bernard, celui de Marion Bartoli et celui de Simon Dutin. Et puis je vous donnerai évidemment le classement choisi lors de ce sondage RMC Harris Interactif pour le J-500, c'était cette semaine. On va s'intéresser tout d'abord à un chiffre: 45% des Français ne rêvent pas des Jeux Olympiques 2024. Il y aura une team, c'est choquant, une team, c'est pas choquant. Et puis 11h30, les GG tout terrain, tous les samedis, le reportage de la rédaction d'RMC. Aujourd'hui, on va profiter de la présence magnifique d'Alain Bernard, on va vous proposer et vous présenter la pépite de la natation française, annoncée comme la future star des Jeux, Léon Marchand, parti s'entraîner aux États-Unis. Tout de suite, les artistes entrent dans l'arène. À l'occasion donc du J-500 avant les Jeux Olympiques, RMC a réalisé un grand sondage exclusif en partenariat avec Harris Interactive. Sondage avec un panel de 1107 individus, c'est comme ça qu'on dit, âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population française, c'est aussi comme ça qu'on dit. Et à la question: est-ce que les Jeux Olympiques de Paris 2024 vous font rêver? Voici la réponse. Assez étonnante. 55% oui, 45% non. Quasiment, vous l'aurez compris, un Français sur deux ne rêve pas des Jeux. Dans le coin gauche, la team, c'est choquant. David Douillet, Alain Bernard, les champions olympiques, justement, dans le coin droit. Peut-être ceux qui n'ont pas eu la chance de titiller la médaille d'or.
Oui.
Marion Bartoli.
Ils n'auraient pas pu y participer.
Stephen Brun et Simon Dutin.
Je passe pas loin, moi, quand même.
Oui, c'est vrai, t'as failli les faire. Enfin, on ne sait pas dans quelle discipline.
Belote mais... coinchée. Ouais.
Belote coinchée, ça aurait été pas mal, ça. Imagine les mecs sans flamme sur RMC. Oh, c'est pas possible. La belote coinchée.
Il annonce sans pic. Il le passe avec le valet.
Il a fait le valet.
Ce serait incroyable. Mais tout de suite, c'est le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et vous avez été très nombreux à voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. C'est assez étonnant, là aussi, ce sondage. Team choquant, team pas choquant. 85% face à 15%. 85%, c'est pas choquant. 15%, c'est
bon,
choquant.
Bon, les gars, je pense qu'on peut y aller. On a pas...
Vous avez du travail à faire, David Douillet, Alain Bernard, pour tenter d'inverser la tendance. Alain Bernard, franchement, tu commences. Pourquoi ça t'a choqué?
Eh bien, je trouve que c'est choquant parce que quand même, les valeurs du sport et tout ce que l'on y connaît, ça doit être quelque chose de fédérateur, quelque chose qui doit nous faire vivre des moments qui nous sortent de notre quotidien, qui nous font rêver, qui nous montrent que c'est possible de faire des grandes choses. Et donc, je pense qu'on en a réellement besoin, encore plus en ces temps compliqués, difficiles, incertains. Il faut rêver, il faut se prendre au jeu, il faut s'évader, il faut y croire, il faut avoir de l'ambition. Et c'est pour ça que je trouve que c'est choquant.
Ok, pour toi c'est choquant. David Douillet, tu peux continuer sur le même credo qu'Alain Bernard.
1924, 100 ans, on n'a jamais eu les Jeux en France, on va les avoir en 2024. Les Jeux, c'est pas simplement du sport, comme l'a décrit Alain. Les Jeux, c'est un état d'esprit. Les Jeux, c'est une culture d'ouverture au monde entier. C'est un message de respect, de considération des autres, de fair play, de faire quelque chose. Les 10 500 athlètes qui vont être là vont, dans toutes leurs différences, montrer un des plus beaux spectacles au monde. C'est pas ce qu'on a besoin en ce moment, les copains. Il y aurait pas une guerre à 2 heures de Paris. Il y aurait pas une pandémie qui vient nous tomber sur la tête là ces temps-ci. Il y aurait pas des problèmes économiques. On va pas reparler de tout ça. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin un peu de quelque chose de positif, d'un état d'esprit où on puisse se rassembler? Et je parle pas de la réforme qui fait polémique encore aujourd'hui. Est-ce que à un moment donné dans ce monde-là, on devrait pas accueillir à bras ouverts quelque chose qui nous permette qu'on reconstruise et qu'on se ressoude tous ensemble? Eh ben les Jeux, c'est ça. Il faut que les Français le comprennent. On a cette chance de les avoir l'année prochaine. On n'a jamais eu autant besoin des Jeux qu'aujourd'hui.
Ok, voilà pour l'argumentation du c'est choquant. Oui, je sens que vous n'êtes pas convaincu, vous avez tous envie de réagir. Steve, vas-y, Marion Bartoli.
Non, je suis pas convaincue parce que tout d'abord, effectivement, pour organiser les Jeux, ça a un coût et le coût, il est colossal et de plus en plus, malheureusement, l'État doit continuer à ouvrir son carnet de chèques parce que les coûts sont supplémentaires. Il y a l'aréna de la Porte de la Chapelle qui a pris beaucoup de retard à cause de problèmes, effectivement, de la guerre en Ukraine et la filière d'acier qui a des gros soucis. Donc, ça prend du retard au niveau des transports. Alors, Jean Castex, ancien Premier ministre, qui est maintenant a été parachuté en tant que PDG de la RATP, a des gros soucis également en termes de transport et le nombre de métros qui devaient être livrés ne sont pas livrés. Les travaux dans Paris, on sait très bien que les Parisiens en ont ras-le-bol. Et aujourd'hui, les gens, le seul problème, c'est de savoir que Paris est inondé d'ordures avec des sacs d'ordures avec une image catastrophique de la ville de Paris donnée, qu'il y a la réforme des retraites. Et les gens, aujourd'hui, ils pensent à quoi? Savoir s'ils vont pouvoir donner à manger à leurs enfants, comment ils vont finir leur fin du mois, comment ils vont mettre de l'essence dans leur voiture. Ils ne sont pas encore en train de penser de savoir qu'effectivement, il y aura la beauté des Jeux avec les athlètes qui vont arriver, avec bien sûr tout ce que les Jeux peuvent engendrer. Mais là, les Français ont de tels soucis dans leur quotidien, avec de tels problèmes bien plus importants à leurs yeux qu'effectivement des épreuves sportives, qu'on peut totalement comprendre ce sondage. C'est en un instant T, à cause malheureusement d'une conjoncture qui est extrêmement néfaste et qui est bien plus problématique, l'organisation de compétition. Maintenant que dans sa globalité, que les Jeux Olympiques soient effectivement une vitrine pour la France qui soit excellente et que ça puisse permettre à nos athlètes français aussi de s'exprimer, et certainement lorsque les Jeux vont commencer, si les Français performent bien, un engouement populaire qui va se créer, ça j'y crois totalement. En revanche, actuellement, avec tous les problèmes auxquels les Français vont faire face, je peux totalement comprendre qu'il y a des soucis nettement plus importants que les Jeux Olympiques qui arrivent sur Paris dans 500 jours.
Ok, ne pas rêver des Jeux, c'est normal. Stéphane Brun.
Marion a fait l'étalage de tous les problèmes que qu'ont les Français en ce moment. Je trouve qu'à J-500, moi je trouve ça normal qu'il y ait des gens qui soient pas encore dans la projection sur les Jeux Olympiques, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas comme Alain, qui ne sont pas comme David, qui ne sont pas comme nous ici autour de la table, qui ne vivent pas sport, qui ne dorment pas sport, qui ne sont pas forcément passionnés de sport et qui ont d'autres préoccupations en ce moment. Mais je suis persuadé que quand les Jeux vont débuter, ces garçons-là, ces personnes-là vont se mettre devant la télé et vont prendre du plaisir. Après, oui, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été très déçus sur l'achat des places, le truc du tirage au sort. Il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés, pour qui c'était trop cher, qui n'avaient pas les bourses adéquates pour se faire un petit plaisir, pour aller voir leur sport, ou pour qui leur sport n'était plus dispo au moment où ils se sont connectés sur la plateforme. Et ça a généré aussi beaucoup de frustration. Et puis, sur ce sondage-là, il y a des gens qui sont très loin de Paris et pour qui ça les intéresse pas parce qu'ils ont l'impression que les Jeux Olympiques c'est Paris intramuros et que eux sont un petit peu délaissés et mis de côté et ils ont pas envie d'être impliqués là-dessus. C'est pour ça aussi que le 45% moi m'échappe pas.
Ok, Simon Dutin, et vous allez pouvoir répondre évidemment à Alain Bernard et David Douillet.
Ben, je rejoins Stephen sur quasiment tout ce qu'il a dit. Il va falloir que j'en parle à mon psy la prochaine fois que je le vois quand même. Ça vient de temps en temps. En sociologie, on dit toujours que la question est plus importante que la réponse. Est-ce que vous rêvez des Jeux? Stephen l'a rappelé, 500 jours, c'est une construction un petit peu médiatique. On a besoin de se projeter. Les politiques ont besoin de clouter aussi ce qui reste effectivement un événement national. Est-ce qu'on se réjouit d'avoir les Jeux? Oui, on est content. Voilà, est-ce qu'on rêve des Jeux? Faut arrêter un petit peu les bêtises. On est effectivement encore un petit peu loin de l'événement. Marion l'a rappelé. Chacun a des préoccupations plus individualistes et c'est, faut bien le comprendre. Hein. On se demande comment on va remplir le frigo. Donc, si tu veux, nos performances en haltérophilie ou en aviron, c'est encore un petit peu éloigné des préoccupations. Et puis, au-delà de ça, moi, je me méfie un petit peu quand même. J'en reviens un peu. Je pense que c'est pas bon de convoquer à chaque fois les poncifs sur les valeurs du sport, l'universalité du sport, l'aventure collective de tout un pays. Stephen le rappelait, il y a quand même un clivage chez nous plus qu'ailleurs entre la capitale et la province. Va leur dire à Alès, à Besançon, à Bellin-Beliers que les Jeux c'est chez eux. Bon ben voilà,
c'est
ça n'a rien à voir.
C'est où Bellin-Beliers?
C'est en Gironde. Stephen, c'est
son fief.
Et effectivement, et puis le prix des billets, encore une fois, quand on t'explique que bah attends, c'est les Jeux, quoi, tu voulais des places pour le hand. Bon bah si tu veux des places pour le hand, tu prends des places aussi pour l'haltérophilie. En gros, bon voilà quoi, il faut tu vois, on te met un peu le flingue sur la tempe pour t'intéresser à tous les sports. Il y a cette espèce de grosse machine qui est devenue le CIO et par extension du coup les comités olympiques nationaux et donc le CNOSF, c'est des grosses machines. Ça ressemble de plus en plus à des grosses boîtes, quoi.
Et alors, t'as le droit de rêver des Jeux Olympiques. Il y a Jonathan
On est un petit peu éloigné, si je peux me permettre mon poncif à moi, on est un petit peu éloigné et on s'en éloigne à chaque Olympiade, selon moi, de l'esprit originel des Jeux, effectivement, de cette rencontre pure entre les sportifs venus du monde entier.
Via le Direct Studio, il y a Jonathan qui nous dit, complètement choqué, quels sont les trois rêves des trois chroniqueurs pas choqués. Moi, je trouve ce sondage assez fou. Ça me fait peur que les Français ne soient pas plus enthousiaste à l'idée d'avoir les Jeux Olympiques. C'est quoi vos rêves alors, les copains? Vous rêvez pas des Jeux, vous?
Non, mais mon rêve, ils ont tous été accomplis, d'être là autour de la table avec toi, Alain Bernard au téléphone, toi, voilà, moi j'ai déjà...
Non, mais moi, j'ai pas envie de me marier en vous écoutant. Sincèrement, ça me fait pas rire. Vraiment, ça me fait pas rire. Non, mais sincèrement, on a décidé de se battre pour avoir les Jeux. C'est une décision à la fois du monde sportif français, c'est une décision de l'État. On l'a pas fait par hasard, on s'est battu pour
ça. On l'avait raté en 2005,
ça va nous coûter. Ça va nous coûter.
Qui en a pas eu.
Voilà. Ça va nous coûter 8,8 milliards à ce stade. Et ça va nous rapporter beaucoup plus. C'est 150 000 emplois sur 5 ans. D'accord? Et vous me faites la liturgie. Arrêtez, putain. Mais on a l'impression qu'on n'est pas sur le même bateau. Vous êtes en train de nous flinguer, les copains. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes en train de me dire que la place des jeux coûte cher. Et il faut les financer, les jeux. Tu fais comment? Mais vous habitez où, là? Vous êtes, c'est cuicui les petits oiseaux. Et puis, c'est pas si cher que ça. Toutes les places qui sont à 24 euros sont parties tout de suite. Et vous mettez l'accent que sur le petit nombre de places qui sont très chères et qui sont pas plus chères que les grandes places dans les concerts.
David,
dans n'importe quelle autre compétition,
vous faites tout de même.
Encore une fois, c'est un peu comme le débat d'avant quand il était caché avec Yoka et Gal. Vous êtes tout le temps dans le French bashing. Il y en a marre, merde. Sans déconner, on a les gens en France. On a quelque chose là pour booster la culture du sport en France, pour faire en sorte que on ait un autre instrument pour que nos gamins soient mieux élevés, mieux éduqués et soient mis sur des bons rails pour leur vie, qu'ils se droguent pas, qu'ils boivent pas, qu'ils déconnent pas et qu'ils aient des vraies valeurs. Et là, vous nous dites, ouais, c'est trop cher, ceci, cela.
Mais arrête, tu nous vends quoi qu'on est un pays qui pratique pas le sport. Moi aussi, j'en ai marre qu'on nous prenne pour des imbéciles en nous disant « Et attendez, vous avez eu la chance d'avoir les Jeux Olympiques ?» Et genre quoi, les gens vont se mettre à faire du sport parce qu'on aura organisé les Jeux. Mais va dire ça aux gens qui font du sport tous les dimanches, tous les samedis, qui emmènent leurs gosses au foot le mercredi après-midi. De quoi
je parle pour tous les autres, Simon.
Parce que les Jeux vont avoir lieu à Paris, on va se mettre à faire du sport. Faut arrêter de nous vendre ça aux gens. Faut arrêter les bêtises.
Mais après, tu vas vieillir, tu vas plus pouvoir, t'auras des enfants, des petits-enfants.
C'est pas parce qu'on dit ça qu'on est pas content qu'il y ait les Jeux Olympiques en France. Ne nous fais pas dire ce qu'on n'a pas dit non plus.
Ben si, c'est, si, c'est exactement ce que tu as dit, je suis désolé. On peut réécouter ce que tu as dit.
On va pas, okay, on va pas se voiler la face, c'est un levier important, on va pas se voiler la face, c'est un levier important pour sensibiliser de l'importance d'une activité physique. Pas tout le monde fera du sport de très haut niveau, mais sensibiliser sur le fait que c'est important de bouger, de pas rester dans son canapé 12 heures par jour, eh bien peut-être qu'on pourra être plus en forme, travailler plus longtemps, être plus épanoui, avoir des projets pro, mener plus avec plus de force ses projets pro, etc. C'est un levier, c'est pas un...
Mais les valeurs éducatives du sport,
tout le monde ne peut être...
Mais David,
mais les valeurs éducatives du sport, elles ne sont pas sur trois semaines, les valeurs éducatives du sport.
Et vous crachez dessus, mais sans déconner, vous êtes fous.
Mais ça ne crache pas dessus. On n'est pas non plus dans un royaume.
Attention, pas
les gamins dans les clubs, ils apprennent à dire bonjour. Les gamins dans les clubs, ils apprennent à dire bonjour, à dire merci, à dire au revoir. Qu'ils n'apprennent pas parfois dans leur cadre familial ni dans leur cadre scolaire. Donc en fait, les clubs partout sur notre territoire sont un relais extraordinaire pour fédérer justement cette éducation qui parfois certains jeunes n'ont pas à la maison. Et donc oui, c'est un argument de poids, je pense, le fait d'accueillir les Jeux Olympiques en France, de pouvoir mettre en avant les valeurs du sport.
Eh ben moi je pense qu'on pourrait on pourrait doubler voire tripler les heures de PS à l'école publique et donc par extension à l'école privée aussi.
Non
mais on
parle pas de PS. Moi je parle pas de PS à l'école.
Simon, si tu savais de quoi tu parlais, le sport est un gros mot à l'école.
Oui, enfin j'ai juste été à l'école.
On prononce pas le mot du sport ni de compétition. J'y crois toi. Aujourd'hui, le monde du sport,
les cours de PS, ils m'ont plus inspiré une culture sportive, excuse-moi, que les jeux qui soient pas loin de chez nous ou à l'autre bout du monde.
Mais je te parle d'aujourd'hui.
Si tu veux régler la question en disant t'as pas fait de compétition de haut niveau, donc tu peux pas en parler. Bon, à ce moment-là, effectivement, on peut pas discuter.
J'ai jamais dit ça.
David.
J'ai pas du tout.
Je n'ai jamais dit ça.
Non, mais encore une fois, il faut prendre les exemples des autres pays. Je suis désolé, on n'est pas. Non, mais David, il faut quand même arriver à différencier. C'est pas parce qu'on émet certaines critiques sur des choses qui sont totalement fondées. Le prix des places à 24 euros, ça a été que 1 million de places qui ont été distribuées. On sait très bien que sur les JO Londres, les prix des places très basses étaient sur un quota bien plus élevé. Et après, les places, malheureusement, ils font des packages où les gens sont obligés de prendre 3 compétitions. Et donc, si tu arrives avec une famille de 4 personnes, ça revient à des prix qui sont beaucoup trop élevés. Et ça a déçu beaucoup de gens. C'est pas parce qu'on émet des critiques qu'on est totalement.
Pour le déficit de Londres. Londres est en déficit. Voilà.
Bah bien sûr, mais c'est pour ça qu'on dit que les Jeux Olympiques coûtent de l'argent. Mais c'est pas parce qu'on émet des critiques qu'on est contre le sport. Bien sûr qu'on est content d'avoir les Jeux Olympiques, mais il faut comprendre que pour des gens, malheureusement, c'est en train des frustrations, c'est tout.
Marion.
Ça engendre des frustrations. Et quand tu regardes d'ailleurs, regarde au JO Tokyo, est-ce que tu t'imagines qu'à Tokyo, ça a généré. Non, mais il faut regarder les autres exemples des Jeux Olympiades qui ont eu dans d'autres pays. Est-ce que ça a réellement généré un engouement pour le sport qui a changé les mentalités complètes au niveau d'une société entière? J'en suis pas convaincue. Maintenant, qu'en tant que sportif, bien sûr que je sois heureuse d'avoir des sportifs français qui sont en France, c'est évident.
Laisse-moi répondre, Marion. Je reviens sur le prix des places. C'est les Londoniens qui payent le prix des places aujourd'hui, d'accord? Il y a eu un déplacement de budget colossal, ce qui n'arrivera pas à Paris. Donc nous, on est conscients, il y a une gestion consciente des Jeux. Et ça passe par le prix des places, malheureusement. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Tu veux que les Parisiens payent les Jeux après, de manière très hypocrite? Eh ben ça se passe pas comme ça en France.
Okay. Ouais, mais peut-être qu'ils le feront. Tu verras avec les comptes publics.
On va arrêter ce débat, les copains. On a bien compris vos positions. Sachez qu'on va parler avec Alain Bernard dans quelques instants. Alain Bernard, juste une petite question. T'es content d'être venu ce matin?
Oui, super. Non, mais pour de vrai. En vrai, non, mais ça fait... C'est ma carrière sportive et je me rends compte que, en fait, je suis pris d'une mission qui me dépasse de véhiculer ces valeurs du sport. Que j'aille faire des conférences en entreprise, que je vois des enfants dans les écoles, que pour porter ces messages ou que quand je suis bénévole dans mon club à Antibes, eh bien, mon engagement, il va au-delà de tout ça. Et c'est le sport qui m'a structuré comme ça. Pour moi, c'est plus fort que tout. Je ne peux pas laisser croire que des gens ne sont pas optimistes. Les gens sont optimistes pourquoi, alors, en ce moment, s'ils sont pas optimistes pour ça?
Non, mais il y a une différence. La question, elle était claire. Est-ce que les Jeux Olympiques vous font rêver? Pas qu'on soit optimiste, pas qu'on soit content de les avoir. Est-ce que ça nous fait rêver? La sémantique est importante. Est-ce que ça nous fait rêver? On peut comprendre qu'il y ait des gens qui ne sont pas totalement. Enfin, ça serait un immense rêve pour eux d'avoir les Jeux Olympiques.
Merci.
On n'a pas bâché les Jeux, David. Écoute.
Merci, David. Merci, Marion. Vous avez fait le débat. Nous allons clore ce débat, s'il vous plaît. 45% des Français ne rêvent pas des Jeux Olympiques. Team choquant, team pas choquant. On est parti à 85-15. Nous sommes à 84-16. Voilà, 16%, ouais, c'était choquant. Vous avez gagné un petit pourcentage, David Douillet et Alain Bernard. Bravo à vous.
Bon rendez-vous demain. Et on fait ça, on a 500 jours, David, on est large.
Bien sûr, on reposera la question juste avant les Jeux Olympiques. Alain, tu es actuellement à Saint-Germain-en-Laye, au dôme de Saint-Germain-en-Laye, là où il y a une piscine, c'est en région parisienne. Que fais-tu là-bas?
Oui, exactement. Alors, je suis dans la promotion du Giant Open. C'est une compétition internationale organisée par la Fédération Française de Natation qui a vocation à accueillir des athlètes internationaux en vue de préparation de ces fameux JO, justement, à Paris 2024. Et puis, voilà, un week-end de compétition avec quelques stars de la natation française et un format de compétition un peu plus sympa avec une mise en scène un peu plus chaud, spectaculaire. Et donc, je suis ravi de pouvoir promouvoir cet événement qui va s'inscrire dans une longue durée, j'espère.
Alors, depuis le début de l'émission, je demande à toutes les GG quel est votre plus grand souvenir des Jeux, parce que ça fait partie des questions posées aux sondés lors de ce sondage exclusif pour RMC à l'occasion des J-500. Je vais vous donner le classement dans quelques instants, mais on va écouter l'extrait, le plus grand moment pour Alain Bernard. C'est pas lui, je suis aussi déçu, c'est un peu comme David Douillet. C'est pas lui, et c'est le même que Marion Bartoli. On écoute, c'était en 96.
Marie-José Pérec est sur la même ligne que sa contre concurrente et Brice Guina qui fait son effort à la corde. Il ne faut pas que Marie-José Pérec se contracte parce qu'elle ne va pas rentrer en tête dans la ligne droite. C'est Brice Guina qui va rentrer en tête et Marie-José Pérec doit faire son effort et elle le fait. Marie-José Pérec qui revient à la hauteur de Brice Guina. 50 cm d'avance, 80-90, elle est championne olympique. 1 mètre d'avance, 48-85. Record de France et surtout titre olympique. Marie-José Pérec a réussi son pari, elle n'a pas déçu.
Et oui, elle n'a pas déçu Marie-José Pérec, pardonnez-moi, c'est pas 96, mais c'était le titre en 92 au JO de Barcelone. Alain, pourquoi t'as choisi cet extrait?
Parce que j'avais même pas 10 ans, c'est l'un des premiers souvenirs des Jeux Olympiques qui m'a marqué, d'une Française, une Antillaise en plus, voilà, tout ce que ça peut représenter, qui est sur le toit du monde, qui est... Voilà, c'est extraordinaire, ça m'a fait rire. Un an après, je vois l'Olympique de Marseille qui remporte la Coupe d'Europe. J'habitais à Aubagne. Quelques années plus tard, je vois la France qui est championne du monde en 98. Entre temps, il y a eu les titres de David en 96 et 2000. Donc, voilà, c'est des moments qui me font rêver et qui m'ont aidé, qui m'ont réconforté dans ce choix de faire du sport de haut niveau aussi.
Ok, Marion, pourquoi?
Non, totalement. Moi, je me rappelle de 96, effectivement, avec ce doublé 200-400, quand elle rentre à la dernière ligne droite avec Merlène Otte au coude à coude sur le 200 mètres et qu'elle arrive à la dépasser. Je me rappelle encore des commentaires. Je me rappelle sauter sur mon canapé. C'est vraiment les grandes années du sport français. J'ai eu la chance de la rencontrer, d'ailleurs, Marie-Jo plus tard. Et pour moi, c'est vraiment, moi, ce qui m'a inspirée en me disant, j'ai envie aussi d'être une championne, j'ai envie de réaliser les mêmes choses. Il y avait eu la Coupe Davis en France en 91 où les Français étaient arrivés à battre les Américains. Donc, toutes ces grandes années de sport français de 90 à 2000 ont vraiment bercé ma jeunesse. Et alors, j'aurais pu dire aussi également David, citer David et citer Alain, mais je pense que j'aurais fait un peu trop faillotte. Donc, c'est pour ça que j'ai pris Marie-Jo. Mais pour moi, ça reste effectivement les plus grandes années, les plus belles années du sport français.
Clairement, et pour ne pas faire faillot, les sondés n'ont pas voté pour Alain Bernard et David Douillet. Je suis très déçu. Le numéro 1, c'est Usain Bolt en 2008 pour 32% des sondés. Marie-José Pérec en 96 arrive deuxième avec 28%. Et le troisième, c'est l'un des titres olympiques du handball français, soit 2008, soit 2012, soit 2020. C'est beaucoup revenu pour 23%. Stephen, un petit cocorico pour toi, la victoire de la Dream Team en basket en 92.
Ça arrive cinquième avec toute une génération.
4%. Allez, on se retrouve dans quelques instants, toujours avec Alain Bernard, encore quelques minutes, car nous avons un magnifique reportage autour du nageur, la future pépite, Léon Marchand.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
11h35 de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours ce matin avec Simon Dutin, Stephen Brun, David Douillet, Marion Bartoli et notre invité exceptionnel Alain Bernard. Et tous les samedis à 11h30, c'est l'instant reportage.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Je le disais, avec ce débat de 11h, le cap symbolique des 500 jours avant les Jeux Olympiques ont été franchis cette semaine. On voulait vous parler de celui qui sera peut-être l'une des stars de ces Jeux à domicile pour l'équipe de France, Léon Marchand, pas encore 21 ans et déjà double champion du monde l'été dernier sur 200 et 400 mètres, 4 nages. Julien Richard, spécialiste natation sur RMC, est avec nous. Salut Julien.
Salut les grandes gueules du sport.
Bon, salut Julien.
Salut Julien.
C'est vrai, Julien, on en a déjà parlé ici plusieurs fois, mais Léon Marchand s'entraîne aux États-Unis avec Bob Bowman, celui qui a forgé la légende Michael Phelps. On a quand même l'impression qu'à 500 jours de CJO, que notre ami Léon Marchand est exactement au bon endroit, au bon moment.
Oui, et depuis le début de saison d'ailleurs, de saison universitaire, hein, il affole les chronos.
Oh my goodness!
Wow, il affole les chronos et aussi les commentateurs américains. Il a battu 4 records universitaires, invaincu, tout simplement, meilleur temps de toutes les épreuves qu'il a disputées. C'est sa deuxième saison à l'université d'Arizona State, sous les ordres donc de Bob Bowman, avec un groupe d'entraînement qui s'est largement renforcé. Il a par exemple tous les jours dans l'eau avec lui Chase Callis, qui est le champion olympique du 400 mètres 4 nages à Tokyo. Un groupe de très, très haut niveau.
En vrai, c'était trop bien. Je me suis rendu compte qu'on était à l'entraînement. Sur les 7 nageurs qu'il y avait dans la piscine, ils étaient tous médaillés, genre olympiques ou mondiales. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est quand même dingue de s'entraîner avec eux tous les jours, de pouvoir faire la course à l'entraînement, de pouvoir voir comment ils abordent les entraînements, ils abordent les compètes. C'est aussi plus facile après de nager en compète contre eux, je pense. C'est vrai que quand on est français, on voit un peu les Américains comme, on les met un peu comme sur un piédestal. Et c'est vrai que de pouvoir s'entraîner avec eux, ça change les choses.
Ouais, et pour lui, de l'autre côté de l'Atlantique, donc le J-500 est un peu passé inaperçu.
En vrai, quand on est dans le système universitaire, on se rend pas compte de tout ça parce que j'ai des objectifs à courte durée. Et du coup, c'est vrai que ça fait passer le temps super vite. Alors oui, je suis pressé d'arriver là-bas, mais c'est vrai que je prends mon temps pour travailler, pour être meilleur, pour être plus prêt, j'ai envie de dire.
Voilà, Arizona State, hein, donc l'université qui est proche de Phoenix. Léon Marchand ne fait pas que nager.
Moi, c'est Computer Science.
Donc, Computer Science, c'est pour la faire courte, c'est de l'informatique. Il étudie l'informatique.
J'ai réussi à bien équilibrer ma vie, entre guillemets, entre les études et la natation. On n'a pas trop le temps de faire autre chose ici. On est quand même, mon diplôme demande beaucoup de travail en dehors de la classe aussi. J'ai beaucoup de devoirs, beaucoup de trucs comme ça. Du coup, c'est vrai que c'est rythmé et que les semaines passent super vite. J'ai pas trop le temps de faire autre chose. Même si je profite bien sûr de mes potes, on est dans une maison cette année, donc c'est hyper cool. C'est un peu le folklore et tout, et je travaille beaucoup ici, je fais une bonne productivité. Du coup, c'est vrai que je suis tranquille ici, je focus sur vraiment ce que j'ai envie de faire, et d'apprendre encore plein de trucs tous les jours. Et ici, c'est facile parce qu'effectivement, il n'y a pas trop d'attente. Ici, on est tous un peu des médaillés au monde. Ici, il y en a plein, quoi. Il y en a une dizaine dans le bassin qui s'entraînent avec moi tous les jours, donc c'est vrai que c'est différent.
Bien occupé, il est aussi loin des préparatifs de la grande fête en France, donc loin des yeux, loin du cœur, de la pression.
Ici, en fait, je ne m'en rends pas trop compte de tout ça, parce que je suis un peu loin et c'est vrai que ça réduit vachement tout ça et que je fais un peu mon travail de mon côté. Mais c'est aussi bien de pouvoir me confronter à ça. C'est un peu aussi un challenge parce qu'il faut que je me prépare pour Paris, parce qu'à Paris, ce sera encore plus. Ce sera un peu le next level, donc...
Et pour préparer ce next level, comme il l'appelle, il travaille justement ce moment-là, cette attente qui va grandir forcément autour de lui à l'approche des Jeux. Il travaille avec un préparateur mental. Et puis, il aura une première petite occasion de se rendre compte de ce changement de statut avec son retour en France au mois de juin. Il va remettre le bonnet vert des dauphins du TOEC Toulouse lors des championnats de France qui auront lieu à Rennes. Il y retrouvera notamment ses camarades de l'équipe de France.
Machine, c'est un monstre.
Oh là là, Léon. Léon, c'est un monstre. Hein.
Si je devais choisir un mot, je pense que je dirais rafraîchissant.
Voilà, vous avez entendu Maxime Grousset dans l'ordre Fantine Le Saffre et le capitaine Florent Manodou, à qui j'avais donc demandé un mot pour définir ce que faisait Léon Marchand.
C'est surtout son attitude et je trouve que Léon, il est très rafraîchissant à regarder nager, à regarder gagner. Il fait des choses qui font du bien et qui donnent le sourire. Donc, il représente le renouveau de l'équipe de France. Alors, c'est pas le seul. On n'a pas trop envie de lui mettre la pression. Et moi, en tant que capitaine, j'ai vraiment pas envie de lui mettre la pression parce qu'il fait les choses bien là où il est avec Bob. On s'attend à ce qu'il nage très très vite et que ce soit un des leaders de cette future équipe de France pour, je dirais, les 10 prochaines années. Enfin, j'espère. Here comes Léon Marchand of ASU.
Voilà, il va continuer à affoler les chronos certainement et les commentateurs américains donc dans 5 jours avec la finale des championnats universitaires, donc NCAA, ce que l'on appelle la March Madness.
Julien Richard, reste avec nous car on parlera du programme justement olympique de Léon Marchand. Mais juste avant de libérer Alain Bernard, ton regard sur Léon Marchand, est-ce que c'est il est programmé comme ça, c'est la future star des Jeux?
La future star, on ne sait pas. Je pense qu'en tout cas, il a à cœur de performer, de surprendre et de se faire plaisir. Il est étonnant. En fait, on le savait suffisamment fort sur la fin de l'adolescence là, mais là, il a vraiment enfoncé le clou très très fort. Voilà, c'est un exemple. Il est bien structuré. Il a eu une très bonne formation et il a fait le choix de s'exiler aux États-Unis. Comme le disait Julien, c'est bien. Il n'est pas forcément dans la tourmente médiatique et pas attendu à chaque sortie de comme s'il était en France. Donc ça lui apporte aussi beaucoup de fraîcheur et le fait de se préserver justement d'aujourd'hui aux Jeux Olympiques. Donc on en attend beaucoup de lui. Laissons-le vivre, laissons-le respirer, laissons-le nager pour qu'on puisse le soutenir et rêver parce que c'est des moments uniques. Et quand on voit des courses proches des records du monde, on se dit bon, la prochaine course, est-ce que ça va, il va le battre, et donc voilà, il faut rêver aussi, de la même façon que les Jeux, c'est le petit clin d'œil.
Ok, promis, on le laissera pas respirer, évidemment on va lui mettre une pression énorme sur les...
Il y a 45% des Français qui ne s'estiment pas fan de Léon Marchand. Okay.
C'est un sondage évidemment, ouais. Stephen Brun, exclusif, avec Harris Interactif celui-là ou pas?
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Sondé sur un panel de gens de 18 ans, à partir de 18 ans.
Il doit avoir des enfants. Marion, juste avant. Je remercie Alain Bernard, il doit nous quitter. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Alain.
Et à bientôt sur RMC. Merci beaucoup.
Merci à tous. Salut.
Oui Marion, vas-y.
Non, mais pour boucler la boucle tout à l'heure et développer un petit peu mon argument, même si je crois que David l'a pas entendu, c'est typiquement si Léon Marchand ou d'autres athlètes lancés arrivent justement à performer et à gagner des médailles d'or, là je pense que l'enthousiasme est colossal en France et ça va faire vraiment vivre les Jeux. Donc ça va aussi beaucoup dépendre des performances françaises, ça c'est certain. Et Léon Marchand peut être, surtout dans un sport comme la natation, qui est vraiment le sport olympique par définition, comme peut bien évidemment être le judo ou l'athlétisme, ça peut être vraiment des athlètes qui peuvent transformer ces jeux en une réussite totale.
Ok, Stephen Brun.
Non, Léon Marchand, Victor Wembanyama, même combat. Je pense qu'il faut s'enflammer pour ces garçons-là. Léon Marchand, premier championnat du monde, il fait péter la banque. Il est aux States, donc il baigne dans cette culture de la gagne. L'avantage qu'il a quand il va arriver à Paris, c'est qu'il a déjà vécu l'événement JO à Tokyo, dans un rôle un peu moindre, certes, mais il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est vivre au village olympique. Il sait ce que c'est que cette pression et ses attentes. Au championnat du monde, il s'est approché à une demi-seconde du record all-time de Michael Phelps sur le 404 nage. C'est un mutant. Finale de conférence avec Arizona State, il a permis à sa fac pour la première fois de sa vie d'être champion de sa conférence, il a gagné les 6 épreuves. Il faut profiter, il faut s'enflammer pour ces garçons-là. Et je te fais une petite confidence, je te rappelle quand on est parti au ski là avec RMC à Val d'Isère.
Ok, tu vas pas sortir un dossier sur moi, non?
Non, pas du tout. Je m'étais retrouvé par hasard à attendre le bus avec Yannick Agnel et j'avais discuté 20-25 minutes et moi je lui ai posé 8 milliards de questions et je lui ai dit Léon Marchand alors. Il m'a dit Léon Marchand, c'est un extraterrestre. Donc pour que Yannick Agnel puisse qualifier Léon Marchand d'extraterrestre.
C'était pas Camille Lacour, pardon. C'était Yannick Agnel. C'était Camille Lacour, pardon, je m'excuse.
Ouais. C'était Camille Lacour qui me disait que Léon Marchand était un extraterrestre. Donc ça veut dire que même des mecs qui ont dominé la nage mondiale s'extasient sur Léon Marchand. Donc nous on peut y aller.
Oui, puis il s'entraîne quasiment avec le meilleur entraîneur du monde. Et comme il le dit, il s'entraîne qu'avec des cracks, avec des champions du monde, des champions olympiques. Il baigne totalement dans ce qu'il faut être pour qu'il arrive plein pot au jeu. Ça c'est certain.
David Douillet, t'as envie de t'enflammer pour Léon Marchand?
Bien sûr, c'est un don du ciel. Voilà. Moi, j'ai connu son papa à l'INSEP, qui était déjà un très grand nageur, et il a hyper bien aiguillonné son fiston pour le mettre dans les meilleures conditions. Et s'il est au stade, c'est pas par hasard pour devenir le meilleur du monde. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui donnera l'envie à des milliers, voire des millions d'enfants d'apprendre à nager. Et c'est un grand besoin qu'on a en France, peut-être grâce au JO, messieurs, dames.
Justement, je vais peut-être te faire réagir, Simon, parce que je voudrais qu'on écoute Julien Richard sur le programme des Jeux de Léon Marchand, parce que ça, il y a quand même un débat sur son programme. On a envie de le voir beaucoup de fois, mais lui aussi, mais peut-être pas tout le monde, hein, peut-être pas son entourage.
La brasse et papillon, ouais. il va les rajouter ou pas?
Et juste le papa, c'est Xavier Marchand, vice-champion du monde du 204 nage. Et la maman est en équipe de France de natation aussi, l'oncle aussi. Enfin, il y a des bons gènes de nageurs. Oui, le programme. Donc, effectivement, pour vous résumer le truc, Léon, c'est un spécialiste de 4 nages. Vous avez compris, il est double champion du monde du 200 et du 400 mètres 4 nages. Donc, dans son programme, ça, c'est inamovible. Le problème, c'est qu'il est aussi très, très performant sur 200 mètres papillon. Il est vice-champion du monde à Budapest cet été dernier.
Et
sur 200 mètres brasse. Ça, il a battu notamment le record universitaire il y a 2 semaines. Mais au championnat du monde, c'est impossible de faire le 200 mètres brasse. Parce que les demi-finales sont placées juste avant la finale, vraiment la course avant la finale du 204 nage. Et ça, pour lui et pour son entraîneur Bob Bowman, c'est vraiment une grosse frustration. Mais il y a un mais. Aux Jeux Olympiques, la compétition dure 2 jours de plus. C'est sur 9 jours. Et là, tout devient impossible ou presque, puisque les 200 mètres brasse et 200 mètres papillon ont lieu le même jour. Donc pour les séries et les demi-finales, ça pose pas de souci parce qu'il y a assez de temps entre les deux. Donc il a le temps de récupérer. Ça, c'est pas un problème. En revanche, il y a quand même une interrogation, c'est que les finales ont été placées l'une après l'autre. Donc en gros, il y a à peine un quart d'heure
entre les deux.
Ouais. Voilà. Donc c'est un risque. C'est un risque. On sent clairement qu'il a envie de le prendre, ce risque, mais le choix est pas du tout fait. Hein. Il y a encore du temps pour se décider avec Bob Bowman. Mais bon, voilà, la perspective de le voir disputer 4 épreuves aux Jeux Olympiques, ce serait quand même quelque chose, avec un défi de ce genre-là, ce serait quand même quelque chose d'assez excitant.
Ouais, 4 épreuves individuelles et il y a le relais, donc ça rajoute évidemment des épreuves. Simon Dutin, rapidement sur Léon Marchand, mais peut-être aussi sur son programme olympique. Est-ce que tu as envie de le voir tout faire ou est-ce qu'il y a un risque justement de laisser trop d'énergie?
Évidemment, Julien vient de rappeler, on a peut-être une chance effectivement de le voir compétitif dans toutes ces épreuves de prédilection, non, mais que du respect pour ce jeune champion, effectivement. Et comme dit Steve, je pense que l'environnement qui règne dans les facs aux États-Unis, avec comme l'a dit Steve, la culture de la gagne, voilà, a dû bien l'aider au-delà de ce potentiel exceptionnel. Et puis voilà, les Américains, ils disent you have to deliver, c'est-à-dire quand tu arrives à la compétition, il faut produire à hauteur des espérances qu'on place en toi. Et lui, il l'a fait pour ses premiers mondiaux, donc il sait ce que c'est que d'être déjà attendu au tournant. Et voilà, il est parti pour dominer quand même, j'ai l'impression.
Léon Marchand, retenez bien son nom. Qu'est-ce qu'il y a, Stephen? Je sens des bêtises.
Parce que tout à l'heure, je parlais sérieusement sur une anecdote, mais j'ai eu tout faux. Donc c'était bien Camille Lacour, et c'était à l'Alpe d'Huez et pas à Val d'Isère. Okay. Hein, n'importe quoi.
Alors, moi, j'ai envie de dire, si tu as
envie de voir Yannick Agnel à Val d'Isère, tu fais bien ce que tu veux, évidemment, mon cher Stephen Brun. 11h47, on se retrouve dans quelques instants avec vous, les auditeurs, le 32-16. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG, c'est très simple. Vous venez lui dire le 32-16, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
11h50, on est de retour dans les grandes gueules du sport, la dernière partie à partir de midi. N'hésitez pas à rester avec nous, les paris RMC autour des matchs de Ligue 1 notamment. On vous conseillera au mieux sur vos paris du week-end. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport. Et vous,
vous venez interpeller une GG sur un débat du jour. Yann nous a appelé au 32-16. Salut Yann.
Qui?
Yann, tu es là?
Oui.
Salut Yann, merci d'être avec nous. On t'entend parfaitement bien.
Salut,
alors tu as le choix entre Simon Dutin, Stephen Brun, David Douillet, Marion Bartoli. Tu veux t'occuper de qui ce matin?
Je m'occupe de Stephen.
Ok, pourquoi?
Pourquoi? Pour Hervé Renard. Le débat et tout ce qu'il a pu dire. J'aurais pu aussi m'attaquer à Simon, hein, qui était très proche de lui sur la réflexion. Mais la question était, est-ce la chance de sa vie? Donc Stephen a répondu que c'était une chance pour l'équipe de France féminine. Je suis entièrement d'accord, mais est-ce que c'est aussi la chance de sa vie? Moi, je dis un grand oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il avait de mieux? Vous parlez du Mexique, vous parlez de la Belgique et d'autres pays. Mais s'il vient là, je pense que lui-même va clore le débat. Il en a parlé chez Jérôme Rotten. Pendant la Coupe du Monde, il veut quelque chose d'ambitieux. S'il choisit ce défi, pour moi, le débat est clos. C'est que c'est le défi de la chance de sa vie.
Ok, Stephen, tu veux lui répondre?
Je sais pas. Peut-être qu'il y a des paramètres qu'on contrôle pas chez Hervé Renard. Peut-être qu'il y a, ça fait partie d'une décision familiale aussi. Peut-être que de revenir habiter en France. Il a des enfants. Je sais pas. Il a une femme. Donc peut-être que ce choix de revenir en France, il y a d'autres paramètres qu'uniquement le sportif. Maintenant, moi, enfin Hervé Renard, il a tout à perdre de venir avec l'équipe de France féminine. Il y a aucune garantie de performer puisque cette équipe-là ne performe pas. Bah oui, mais non.
Est-ce qu'il en avait quand il a pris la Zambie?
Non, il n'en avait pas, mais il était moins attendu. Là, il a une pression hors norme, puisqu'on a fait sauter Corinne Diacre par un problème de relationnel avec les joueuses, parce qu'il y avait des non-résultats avec la meilleure génération de l'histoire possible dans cette équipe de France-là. Là, on le prend pourquoi, Hervé Renard? Pour redorer un peu le blason de l'image du foot féminin et de l'équipe de France féminine, mais surtout pour gagner des trophées. Ça veut dire que s'il vient et qu'il gagne pas, c'est un flop, donc c'est une prise de risque pour lui avec la Zambie. Il gagne, c'est un miracle inouï. Là, avec l'équipe de France, il doit gagner quelque chose, hein, Véronard.
Ok, merci Yann d'avoir composé le 32-16.
Il n'a pas l'air de répondre, Yann.
Hein, Yann, on est pressé parce qu'il y a un Julien qui appelle pour quelqu'un d'autre et on a envie de le prendre, notre ami Julien. Salut Julien.
Salut Yannou.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour tout le monde.
Salut Julien.
Alors Julien, je te repropose, je te fais la même proposition qu'à Yann, Simon Dutin, Stephen Brun, David Douillet, Marion Bartoli. Tu prends qui?
J'aimerais débattre avec David.
Vas-y, sur quel sujet?
Alors par rapport aux Jeux Olympiques, donc David décrit ça comme un événement planétaire avec toutes les retombées qu'il a décrites. Je suis évidemment, moi en tant que fan de sport, d'accord avec lui, mais je peux aussi comprendre que les Français sont moins enthousiastes. Déjà, on est encore à quasiment un an et demi de l'événement. Et je pense que plus on fera des sondages en se rapprochant de l'événement, plus l'enthousiasme va monter. Je pense que les Français craignent aussi beaucoup l'organisation. N'oublions pas que la France a quand même brillé par son incompétence lors de la dernière finale de Ligue des Champions organisée au Stade de France. Ça a été un vrai fiasco. Ensuite, il faut aussi préciser qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire du sport. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui me disent « Mais fin juillet, début août 2024, il faut vite que je fuis la capitale parce que ça va être un bordel monstre. » Et enfin, pour finir un petit peu cet argumentaire, la billetterie. Alors, tant mieux, s'il y a 1 million de personnes qu'on peut bénéficier de billets à 20-25 € l'unité. Ce que je sais, c'est que c'est pas la majorité. Moi-même, quand j'étais tiré au sort, il ne restait quasiment que du rugby féminin à 7 quarts de finale au Stade de France à 90 € le billet. Je voulais y aller, on est une famille de 4, ça fait quasiment 400 € pour 2 heures de rugby à 7. Je trouve ça complètement déconnecté.
Bah ouais, mais t'aimes pas le sport, Julien, aussi, voilà.
La réponse de David Douillet.
Bah, pour ce qui est de la qualité d'organisation d'un pays comme la France, il y a eu un loupé avec et c'était l'UEFA qui était en charge d'organiser et pas la France. Ça faut rétablir une vérité, c'est très clair. Pour ce qui est des billets, il y aura une deuxième session qui va arriver là, je crois, c'est au mois de mai, où à nouveau des billets vont être mis à la vente. À nous de nous dépêcher pour obtenir les meilleurs billets au meilleur prix. Mais tu peux pas satisfaire. Il y a des millions de personnes qui veulent être présentes sur site et tu pourras pas satisfaire tout le monde malheureusement. Et cette histoire de billets, en réalité, il y a que des coups à prendre parce que il y a des billets qui sont élevés, certes. Il y a des billets qui sont pas chers du tout, certes. Mais il y aura pas de place pour tout le monde et c'est ça le grand problème des billets et de la billetterie. Et je trouve que le système qui a été mis en place par le COJO aujourd'hui, il n'y a pas de très bon système, hein, mais c'est pour moi un des meilleurs systèmes déjà qui lutte contre le marché noir et les surenchères qui pourraient donner des billets beaucoup plus chers et participer à une espèce de seconde économie qui a pas sa place aux Jeux Olympiques.
Oui, mais aussi Julien disait que voilà, on peut comprendre qu'aujourd'hui il n'y ait pas d'enthousiasme et peut-être que ce sondage changera, on l'espère en tout cas dans les mois à venir, car nous sommes
Je suis entièrement d'accord, mais enfin, je veux pas rappeler le contexte dans lequel on est avec le Covid, la guerre, la crise éco, là les problèmes politiques actuels liés aux retraites, etc., etc. Je veux dire, les Français en ont ras la tête, quoi, et moi le premier. Donc, à un moment donné, j'espère que les JO vont apporter un élan positif qui va emmener tout le monde vers de meilleurs horizons, parce que pour l'instant, c'est chaud, quoi.
D'ailleurs, le Covid, ça existe toujours? Parce que tu parlais du Covid, oui, je crois, on n'en parle plus.
C'est un truc de ouf, ça.
Mais on l'a subi quand même, quoi.
L'OMS a annoncé hier que c'était classé comme une maladie saisonnière.
Voilà. C'est pour ça qu'il faut aussi écouter les grandes gueules du sport, car nous sommes tout terrain et on n'hésite pas à s'engager dans cette émission. Merci, Julien, d'avoir composé le 32-16, d'avoir été avec nous. Simon.
5 secondes pour faire les GG et moi, hein. J'ai dit Falatea tout à l'heure en voulant parler de Faletao, hein, immense troisième ligne.
De voyage
gallois maintenant tout de même n'en déplaise à David Douillet, j'ai pas pu faire mon souvenir olympique. C'est pas parce que les jeux me font pas rêver, c'est parce que j'ai été vilement censuré par la rédaction en chef de cette émission.
Voilà, c'était la loco de Waco. La loco de Waco,
Michael Johnson en 96. Voilà,
record du monde du 200 mètres. Merci Simon pour cette précision. Merci les GG.